revêtement de l'homme nouveau, le revêtement par les diverses grâces de Dieu, et bien sûr, cela est fait par la puissance de l'Esprit Saint. Et ce que Paul voulait souligner dans les textes qui suivent, c'est qu'après la conversion, il devrait y avoir du changement, qu'il soit radical ou non. Il faut y avoir du changement quand même. Vous savez, une bonne illustration de cela est trouvée dans la nature. Si on considère la métamorphose d'une chenille qui se métamorphose en un papillon, on a un contraste entre les deux formes. Avant, vous avez la chenille qui rampe sur la terre, sur les feuilles et toute autre sorte de végétation. Après la métamorphose, vous avez le papillon, son sphère justement, et il vole dans les airs. Avant, la chenille mange des feuilles et toutes sortes de cochonneries. Après, le papillon se délecte du nectar des fleurs. Avant, la chenille en général n'est pas très belle à voir. Et même, je me rappelle de mon enfance, faisant part aux petites filles avec des bibites. Et les filles qui criaient aux meutes. Souvent, ces chenilles sont couvertes de poils et de bosses. Et après, le papillon est un être gracieux chez certaines espèces dotées d'une beauté incroyable. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'état de la chenille et du papillon, c'est des changements. Et ce soir, la question que nous devrions tous nous poser, y a-t-il eu du changement dans ma vie après la conversion? Et encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore du changement dans ma vie en ce moment même? Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous quelques caractéristiques de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça, c'est le titre du message, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul, dans ces textes que nous allons voir ce soir, va nous donner justement des caractéristiques de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, lisons notre texte, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 25. C'est pour croire, renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle vie en Jésus-Christ? Alors, au verset 25, qu'est-ce que Paul nous dit? Regardez votre texte encore, s'il vous plaît. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors, comment cette nouvelle vie se manifeste-t-elle dans la pratico-pratique? Comment est-ce que le croyant va se dépouiller du vieil homme et se revêt de l'homme nouveau, mais c'est en passant du mensonge à la vérité. En passant du mensonge à la vérité. Et cela commence par un renoncement au mensonge. Et ce mot dans l'original est très intéressant. Ce mot a la signification de déposer, rejeter. Je vous donne les synonymes, dépouiller, poser de côté, ou poser au loin, se débarrasser d'eux. D'ailleurs, il y a quelques traductions qui traduisent ce même verset comme suit. La Bible en français courant va dire ceci, « Rejeter le mensonge ». Parole de vivante va dire ceci, « Défaites-vous du mensonge ». La version Darby va dire ceci, ayant dépouillé du mensonge. Et Semeur nous dit débarrasser du mensonge. Alors vous avez l'idée. L'idée, c'est justement, on s'enlève. On enlève des mensonges. On s'en débarrasse. Il y a des textes parallèles. Je vous en cite quelques-uns. Hébreux 12:1 nous dit ceci. Rejetant, et ça c'est notre mot, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, comme le croyant est exhorté à rejeter le péché, alors dans le même sens aussi, il rejette le mensonge. Romains 13, 12 nous dit ceci, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous, donc, encore le même mot, des œuvres des ténèbres et faire croire, revêtons les armes de lumière. » Alors, l'exhortation est claire. La nouvelle vie en Jésus-Christ se manifeste par un renoncement au mensonge, un dépouillement du mensonge, un rejet du mensonge. Vous savez, quelqu'un pourrait bien dire, mais qu'est-ce qu'un mensonge? Il a l'air de quoi? Ça mange quoi, un mensonge? Comment on dit en bon québécois? Qu'est-ce que c'est mentir? Alors, le dictionnaire, le petit Larousse, nous donne la réponse. Mentir, c'est donner pour vrai ce qu'on sait être faux, ou le contraire, nier ce qu'on sait être vrai, ou si vous voulez altérer, dissimuler, déguiser, fausser la vérité, et cela dans le but de tromper ou induire en erreur. Et la Bible est remplie d'illustrations, d'exemples des personnes qui ont menti. Ça commence très tôt, on voit la situation dramatique de la race humaine. Ça commence avec un meurtre, Caïn qui va tuer son frère. Et ensuite, dans Genèse 4:9, quand Dieu lui pose la question, « Où est ton frère Abel? » Il va répondre, mais par un mensonge. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et ça, c'est-tu du mensonge dur et pur? Parce qu'il savait exactement où il était. Il venait tout juste de le tuer. Dans Genèse chapitre 20, verset 2, Abraham va dire de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Et ça aussi, c'était du mensonge. Parce qu'en réalité, elle était sa demi-sœur. Il n'avait pas la même mère, mais elle était aussi sa femme. Et Abraham prononce ces paroles dans le but de tromper parce qu'il a peur de passer au cash. Et vous savez, mentir, c'est aussi l'ajout du faux à ce qui est vrai. Des fois, on dit c'est juste une demi-vérité. En anglais, on dit un white lie. Mais vous savez, la vérité est absolue. Il ne peut pas avoir de demi-vérité. Quand on parle de vérité, c'est soit vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de mi-chemin. Alors si tu ajoutes ce qui est faux à ce qui est vrai, mais tout de suite, on vient tout de scraper tout, c'est un mensonge. Et ce n'est plus la vérité. Ce sujet est très vaste et le temps de ce soir ne nous permet pas de faire une étude exhaustive. Mais j'aimerais vous donner simplement, rapidement, d'autres façons de mentir. Exagérer, embellir un récit. L'histoire du pêcheur s'en va à la pêche. Puis celle qu'il n'a pas pu attraper, puis elle était longue de même. Exagération. Tricher. Soir à l'école, ou même quand on remplit nos rapports d'impôts. Faire des belles promesses en l'air, s'inventer des excuses et j'en passe. Toutes les façons de falsifier la vérité. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a recours aux mensonges? Et je vous donne quelques instants et quelques causes. Dans le cas d'Abraham, je dis que c'était à cause de la peur. Il y avait peur que, vu que sa femme était belle, que les gens du lieu l'auraient tué. Et là, il voulait justement éviter cela. Il a dit au roi que c'était sa sœur. À cause de la peur, il a menti. Genèse chapitre 27 au verset 24. Maintenant, c'est le tour de Jacob qui va mentir à son père Isaac qui est aveugle. Et il va se faire passer pour son frère Ésaü. Et quand Isaac lui demande, « Es-tu Ésaü, mon fils ?» Il dit, « Oui, c'est bien moi. » Encore un autre mensonge. Mais la cause ici, c'est la convoitise. Il voulait avoir justement la bénédiction paternelle et tous les avantages que cela a amené. Les frères de Joseph, quand ils ont vendu le frère comme esclave en Égypte, ils ont pris un animal, ils ont tué l'animal, ils ont trempé sa tunique de plusieurs couleurs dans le sang, ils ont envoyé ça à leur père pour dire que Joseph avait été dévoré par une bête féroce. La déception. Actes chapitre 5, verset 8, nous avons le cas d'Ananias et Saphira qui ont vendu une propriété. Ils ont amené justement une partie du prix aux pieds des apôtres et voulaient faire croire que oui, on est des bons chrétiens, on est très généreux, on a vendu notre propriété et on vous donne tout l'argent. Vous connaissez l'histoire, il y avait des conséquences dramatiques. Les deux sont tombés raides morts, comme on dit, un bon québécois. Et ça, c'était justement de paraître bien paraître devant les autres. Question d'orgueil. Alors, qu'est-ce qui caractérise tous ces récits? C'est le mensonge, c'est égocentrique. C'est toujours centré sur l'individu et le désir de combler ses propres besoins sans égard du temps que cela pourrait faire à autrui. Et qu'importe la raison, mentir n'est jamais justifié. C'est un péché que la parole de Dieu condamne sévèrement. Quelques textes, Exode chapitre 20, les 10 commandements. Dieu a cru bon d'en mettre un là-dedans qui part du mensonge. Numéro 9, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne mentiras pas à propos de ton prochain. Lévitique 19, 11, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies, les uns envers les autres. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'on trouve justement ces exhortations, on les trouve aussi dans le Nouveau Testament. Colossiens 3, 9 dit ceci, c'est un texte parallèle, « Ne mentez pas les uns aux autres, la raison vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. » Et avez-vous remarqué que dans Apocalypse chapitre 21, on est à la fin, les fins du monde, les fins du siècle, et là c'est les nouveaux cieux, les nouvelles terres, c'est l'éternité qui commence. Mais il y a un type de personne qui ne se trouve pas là. Apocalypse 21 nous dit ceci, dans les lâches, les incrédules, et qui? Tous les menteurs. Grave, hein? Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors, mentir, c'est sérieux. Et cela ne devrait aucunement caractériser le croyant. Et juste une dernière pensée sur ce thème. Pourquoi est-ce qu'on trouve ce péché si répréhensible? C'est parce que sa source vient de Satan, qui est l'ennemi juré de Dieu. Et ça a commencé lors de la rébellion de Satan. Il était Lucifer, cet astre brillant, chérubin, protecteur. Et sa rébellion a été fondée sur un mensonge. Ésaïe 14, 14, il va dire ceci, « Je serai semblable au Très-Haut. » Mensonge, menteur. Parce qu'il y a seulement un seul vrai Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, qui est semblable à toi, ô Éternel? Qui est semblable à toi? La réponse est personne. Alors, la rébellion de Lucifer, mensonge. Mais là, il va revenir aussi à l'attaque dans le jardin d'Éden, lors de la chute. Et après avoir séduit Ève, il va dire ceci en parlant du fruit défendu vous ne mourrez point. Quel mensonge! Parce que Dieu leur avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Jésus, dans Jean 8, 44, va dire ceci de Satan. Il est menteur et il est aussi le père du mensonge. Le père, l'auteur, ça a commencé avec lui. Alors, si le mensonge ne devrait pas caractériser aucunement la nouvelle vie du croyant, qu'est-ce qui devrait la caractériser? Alors, nous avons la réponse dans le verset 25b, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et ça, c'est ce qui doit remplacer maintenant le mensonge. C'est une vertu que la parole de Dieu recommande, et même plus que cela, c'est une vertu qui est louée dans la parole de Dieu. Le mensonge est condamné, mais la vérité est louée. Et les proverbes ont beaucoup à dire sur la vérité. Je vous lis juste quelques textes. Proverbe 12, 19 nous dit ceci. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Et Proverbe 12, 22 nous dit ceci. Les lèvres fausses, mensongères, sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ce soir, chers amis, bien-aimés, dire la vérité devrait être une priorité pour chacun de nous. Chaque chrétien authentique n'appartient plus au royaume des ténèbres, appartient désormais au royaume de lumière. Chaque chrétien authentique n'appartient plus au royaume de Satan, il appartient au royaume de Dieu. Et vous savez que dans le royaume de Dieu, cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, nous a transporté de la lumière, de la royaume des ténèbres, dans son admirable lumière. Et dans ce royaume, il y a un Dieu qui règne. Un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et saviez-vous que chacun de ces personnes sont caractérisés par la vérité. Nombre 23 nous dit ceci en parlant de Dieu le Père. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors Dieu le Père, caractérisé par la vérité. Qu'en est-il pour Dieu le Fils, Jésus, Fils de Dieu? Connaissez ce beau texte dans Jean 14, 6. Jésus lui dit en parlant à Thomas, « Je suis le chemin, je suis quoi, je suis la vérité et la vie. » Alors Dieu le Père est caractérisé par la vérité. Dieu le Fils aussi est caractérisé par la vérité. Et aussi vous avez Dieu le Saint-Esprit, qui est aussi un esprit de vérité. Quand Jésus a parlé à ses disciples, il leur a dit, « Je vais vous envoyer un consolateur. » Jean 14, 16, 17, Jésus va leur dire ceci, « Je prierai le Père pour vous et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Alors, Père, Fils, Esprit, tout caractérisé par la vérité, et même la parole de Dieu est une parole de la parole de vérité. Cette parole qui a été inspirée par Dieu, toute écriture, est inspiré de Dieu, est aussi la parole de vérité. Jean 17, 17, Jésus va dire ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et Paul va terminer maintenant son exhortation en nous donnant la raison pour laquelle le croyant doit parler selon la vérité. Alors, on renonce au mensonge, on parle selon la vérité, et dans la raison, car nous sommes membres les uns les autres. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Vous savez, le système de ce monde est basé sur le mensonge, la tricherie, la tromperie, la fraude, la supercherie. Ça, c'est le monde. Et plus que tu es menteur, et plus que tu es fraudeur, et plus que tu es n'importe quoi, là tu vas avancer. Parce que ça fonctionne comme cela dans le monde. Mais dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est le contraire. Pour le bon fonctionnement, justement, pour le corps de Christ, ça prend la vérité. Quelqu'un a dit, bien dit, que si on remplacerait dans le monde le mensonge par la vérité, le système de ce monde s'écroulerait. Mais dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est le contraire. Et comme pour un corps physique, ça prend justement le cerveau qui envoie de bons messages au bon moment pour le bon fonctionnement du corps, mais dans le corps de Christ aussi, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir de mensonges, il ne peut pas y avoir rien d'autre que la vérité si on veut bien fonctionner dans le corps de Christ. Il faut y avoir la transparence, la vérité, l'honnêteté, la droiture. Éphésiens 4 nous dit ceci, que nous devrions professer la vérité dans l'amour. Et en pensant à ce texte, je me suis dit, la problématique, pourquoi est-ce que nous avons, et j'accuse personne, je sais que nous en sommes tous exposés à un moment donné à la tentation de ne pas dire la vérité, de mentir pour X raisons. Vous savez, la problématique avec le mensonge, c'est parce que, comme j'ai dit, c'est une question de quelqu'un qui est égocentrique et veut à tout prix pense justement à elle-même. Et la problématique peuvent être, c'est sûr que la parole de Dieu, il y a des versets qu'on peut apprendre par cœur pour nous aider. Mais quand on s'arrête de se concentrer sur soi-même, et nous sommes ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu, mais ça devient tout un autre scénario. Parce qu'on pense aux autres. Et puisqu'on a l'amour pour Dieu, et puisqu'on a l'amour justement de Dieu en nous, mais puisqu'on va y avoir aussi l'amour pour les autres. Et l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Alors, ça va être tout à fait naturel, normal de parler selon la vérité. Et deuxièmement, ce qui m'encourage, malgré le fait que nous sommes faibles et nous avons des lacunes à cet égard, Dieu est fidèle. Dieu a fait des promesses. Et ce qui me sécurise ce soir, c'est que Dieu est un Dieu de vérité. Et quand Jésus a dit dans Jean 5, 24, en vérité, avez-vous remarqué combien de fois Jésus va dire quelque chose d'une importance capitale et il va mettre ces deux paroles du savant? Ça veut dire que vous pouvez y croire, là, Dieu comme le faire, parce que c'est vrai. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et là, vous pouvez mettre votre vie là-dessus parce que c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Et quelle consolation pour nous, quel encouragement. On peut prendre notre Bible, on peut chercher les promesses de Dieu, on peut dire, ça c'est du solide, ça c'est du fondement, et on peut justement se reposer là-dessus. Gloire à son nom. Alors deuxièmement, cette nouvelle vie en Jésus-Christ est caractérisée non seulement par le remplacement du mensonge par la vérité, mais aussi l'apôtre Paul continue, de dire de remplacer la mauvaise colère par la bonne colère, ou la colère sainte, si vous voulez. Regardez votre texte encore au verset 26. Il va dire ceci, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous avez la version Darby et la version anglaise, King James Version, la bonne vieille King James. Il va dire ceci, il va présenter ce texte comme un commandement. Et le signe n'est pas là. Vous allez voir, mettez-vous en colère. C'est fort, hein? Et la NASB, New American Standard, va dire ceci, mettez-vous en colère. Cependant, ne péchez point. Alors, pourquoi cet avertissement de ne pas pécher? Parce qu'il y a une sorte de colère qui est mauvaise, qui est injustifié, qui est charnel, égoïste, et qui se manifeste lorsqu'on se sent attaqué ou offensé ou brimé. Ça, c'est un péché, ça. Une colère qui vise la protection de soi, c'est mes droits. C'est une colère qui est souvent explosive et vengeureuse. Et gare à celui qui vient me piler sur les orteils, parce que ça explose. Dans les exemples, dans Genèse chapitre 4, vous avez un exemple typique de ce type de colère. Dieu vient de rejeter l'offrande de Caïn. Le texte nous dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il est en colère, très frustré. Il est fru, comme on dit. Et pourquoi? Parce que, gardez bien le contexte, sa façon de faire dans son offrande a été rejetée. Il amène son offrande et Dieu dit non. Et Caïn, il prend ça comme une insulte. Quelle insulte, quelle offense, quelle attente à ma personne et à ma réputation. Dieu, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas me refuser ce que j'ai fait. Tu m'attaques. Tu me dis, écoute, ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Là, il est encore là, il est fâché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se venger. Il sait qu'il ne peut pas se venger contre Dieu. Il va trouver quelqu'un. Il trouve son frère. Il passe au cash. Il va épancher sa colère sur son frère. Il va le tuer. Genèse 4, 8 nous dit ceci, « Caïn se jeta sur son frère et il le tua. » Par vengeance, pour se venger. Et encore une fois, l'apôtre Paul nous dit ici que cette sorte de colère n'a pas de place dans la vie d'un croyant. Colossiens 3, 7, 8, un texte aussi qui parle de la nouvelle vie en Jésus-Christ, nous dit ceci, et là nous avons un contraste. « C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Ça, c'est, oui, OK, quand on n'était pas sauvé, on était comme les autres, il y avait la colère, injustifiée et égoïste. Mais maintenant, voyez le contraste, renoncez, encore notre mot, dépouillez-vous, rejetez, débarrassez-vous à toutes ces choses. Et à quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, etc. Ça, c'est la mauvaise colère. On s'en débarrasse. Mais, il y a une autre colère qui est justifiée, qui est altruiste, et qu'on dit souvent une colère sainte. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est parce que cette colère est basée non pas sur les raisons égoïstes. Ce n'est pas parce que mes droits ont été violé, brimé, quoi que ce soit, mais sur l'amour. Basé sur l'amour pour Dieu et basé aussi sur l'amour pour notre prochain. Et ça, c'est la colère qui va s'indigner contre le mal, contre l'injustice, contre l'immoralité et tout ce qui s'oppose aux voies saintes de Dieu et qui porte atteinte à son saint nom. Et vous savez, ça c'est la sorte d'indignation que nous devrions ressentir quand nous voyons ceux de notre société, et surtout les jeunes enfants, et aussi les personnes âgées, deux écarts de la société, souvent sans défense. Et combien de fois on lit des histoires d'horreur où ces personnes sont abusées, sont maltraitées, comme on dit en bon québécois, maganées. Ça devrait venir nous chercher dans les tripes. Et ça, c'est l'indignation que même le Seigneur Jésus-Christ a manifestée. Marc chapitre 3, verset 5, il est dans une synagogue, il y a un homme qui est là, il a la main sèche. C'est le jour du sabbat et il y a des pharisiens qui sont là, des scribes, et ils veulent y avoir juste une seule chose en tête. Tu ne peux pas faire la guérison, c'est le sabbat. Et Jésus, le texte nous dit, promenant les regards avec indignation sur eux, tellement ça est venu le chercher. Cet homme qui est malade, qui a besoin d'une guérison, et eux, ils s'opposent justement à ce que Christ veut faire. Jean, Matthieu chapitre 21, verset 3, il est dans le temple. Et là, la maison de Dieu qui devrait être une maison de prière, il y a ceux qui sont là qui sont en train de voler les autres, vendeurs de pigeons, échangeurs de monnaie, et vous savez comment ça fonctionnait. Et là, le Seigneur est scandalisé par cela et il ne les manège pas. Il va prendre une corde, il va faire une fouet, puis ils vont les chasser. Et sa motivation, il va leur dire ceci, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et quel zèle pour le nom de Dieu, la réputation de Dieu. Il a dit en Psaume 69, 10, le zèle de ta maison me dévore. Et ce matin, je ne veux pas revenir sur le message de ce matin, mais ce matin, nous avons eu aussi le compliment, ou bien moi ce soir, c'est le compliment de ce que nous avons eu ce matin, où est-ce que Doug nous a donné une exposé magistrale sur la colère de Dieu. Une colère qui est sainte. Combien de fois nous voyons la rébellion des enfants d'Israël dans le désert, malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour eux, sa bonté, sa miséricorde, et eux, cœur dur, la colère de Dieu s'est enflammée. Romains chapitre 1, verset 18, un texte qu'on a vu ce matin, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute espèce d'impiété et d'injustice des hommes, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Et Dieu, devant tout ce que la création révèle, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Et malgré cela, il y a des hommes et des femmes qui refusent justement de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Et Dieu est indigné à cause de cela. Une colère qui est sainte. Alors le texte va nous dire après qu'est-ce qu'on fait avec la colère. S'il s'agit justement de la mauvaise colère qui peut nous surprendre, même quand on est chrétien, comme quelqu'un a dit, on ne pousse pas les ailes, il n'y a pas une aurore ici. Alors, Galates 6 nous dit que celui qui est surpris en faute, alors le péché de la colère peut nous surprendre, comme n'importe quel autre péché. Alors, le texte nous dit que cette péché devrait être confessé et abandonné. L'apôtre Paul va dire ceci, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et merci Seigneur pour ce beau texte dans Jean chapitre 1, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et quand on tombe justement dans ce péché de la colère, on peut confesser cela et Seigneur nous pardonne. Et ce soir, si vous luttez justement avec cette problématique, quel réconfort de savoir que le Seigneur ne vous condamne pas, non, mais plutôt il intercède pour vous. Et ma prière, c'est que si vous, c'est une problématique dans votre vie, que vous puissiez connaître justement la victoire. Mais si la colère aussi est justifiée, vous vous êtes indigné devant une situation injuste, l'exhortation aussi est la même. parce que nous sommes des créatures faibles. Et si on nourrit justement cette colère, « Ah oui, j'étais en colère, puis j'avais une bonne raison. » Mais on peut devenir comme des pharisiens. Et on peut commencer à se péter les bretelles et dire, « Mais écoute, je ressemble à Dieu. Je suis fier de ma colère, de ma sainteté. » Non, la Bible nous dit aussi, on devrait confesser cela et ne pas nourrir justement, même si c'est une colère justifiée. Vaut mieux laisser Dieu, le juste juge, s'occuper de cela. Romains 12, 19 nous dit ceci, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et finalement, pour ce contexte de colère, Paul nous donne la raison. Pourquoi est-ce qu'on veut se débarrasser de cela? Et même si c'est une colère qui est justifiée, on va régler ça avant le coucher du soleil, parce qu'il dit ceci au verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Et laissez-moi vous dire que toute colère, qu'elle soit justifiée ou non, si on la nourrit, il ne manquera pas d'engendrer l'amertume, l'orgueil, les sentiments de vengeance, la pitié de soi. Et Satan va utiliser ses péchés pour vous détruire. Ça, c'est tout à fait certain. Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, on n'a pas de puissance. Et quand nous n'avons pas la puissance dans notre vie, mais nous sommes des cibles faciles pour Satan. 2 Corinthiens 2:11, l'apôtre Paul va dire ceci. Il y avait un contexte de quelqu'un qui avait tombé dans le péché et Paul a dit, non, il faut pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, pourquoi pardonner? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et laissez-moi vous dire que nous sommes les cibles. L'ennemi est féroce comme un lion rugissant, cherchant celui qui dévorera. C'est pourquoi il faut justement régler ces choses et pas garder cela dans nos vies parce que ça peut nous faire fausse route. Et finalement, troisième chose, la nouvelle vie en Jésus-Christ est caractérisée par la libéralité au lieu du vol. La libéralité au lieu du vol. Verset 28, nous lisons ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et dans ce texte ici, Paul ne parle pas seulement du vol à main armée. Et on voit souvent dans les films ou bien à la télévision, les gangsters arrivent, ils sont des mitraillettes, ils vont dans une banque, ils vont dévaliser la banque, puis ils vont sortir, ou bien des fois dans le Far West, ils vont arrêter la diligence, puis là, ils vont voler justement tout l'argent. Mais vous savez, il y a d'autres manières aussi de voler. Et j'ai mis quelques exemples ici. Falsifier nos rapports d'impôts. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que souvent, on entend dire, « Mais c'est pas grave, si on vole le gouvernement, lui, c'est le plus gros voleur. » Alors, c'est pas grave, ça ne fait pas le temps. Là. Il y en a des millions. Mais non, ça ne justifie pas ce péché. Travailler au noir, détourner les fonds dans le monde des affaires, le petit vol, le vol à l'étalage, le vol dans les dépanneurs. Et même quand la caissière se trompe, ça arrive moins souvent de nos jours parce qu'aujourd'hui, c'est le plastique qui est partout, les cartes de crédit. Mais autrefois, quand on avait des papiers et de la monnaie, si la caissière nous remettait trop de monnaie, si on dit rien, là, même si on dit rien, puis on sait qu'elle s'est trompée, ça aussi c'est du vol. Alors grand vol, petit vol, c'est vol aux yeux de Dieu. Deux textes, rapidement, Exode 20, 15, c'est le 8e commandement, tu ne déroberas point. Et 1 Pierre 4, 15 dit ceci, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou croix, voleur ou malfaiteur. On ne devrait jamais avoir recours à cette stratégie volée parce que la nouvelle vie en Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une garantie de la Dieu qui ne ment point, qui est fidèle à ses promesses. Et son nom, c'est Jéhovah Jiré. Genèse 22, 14, Dieu pourvoira. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de ses grâces. » Soyons pas comme Jacob. Dieu avait fait des promesses à Rebecca. On est en train de voir cela dans Romains. Jacob, il ne pouvait pas attendre. Fait qu'il va avoir recours à la ruse et au mensonge pour voler la bénédiction paternelle. Le texte nous dit, au lieu de voler, il faut plutôt travailler en faisant de ses mains ce qui est bien. Juste deux remarques. Travailler en faisant de ses mains nous parle de la responsabilité. Vous savez, Dieu avait créé un paradis, puis c'était cool, c'était relax dans le jardin. Et malheureusement, à cause du péché, Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Alors le travail est là. Soyons équilibrés, ne devenons pas les workaholics. Mais il y a une responsabilité, surtout si on est père de famille, de pourvoir aux besoins de notre famille. 1 Timothée 5, 8 nous dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Et deuxièmement, le texte nous dit, « Travaillez en faisant ce qui est bien. » Ça nous parle de la qualité du travail. Tout travail que fait le croyant devrait être un travail qui honore Dieu, bref, qui respecte les lois et les normes divines et qui ne fait pas de mal à autrui. L'Ecclésiaste va dire ceci, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Et Colossiens 3, 23 nous enseigne, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors, vous êtes étudiant à l'école, à l'université. Le travail à botch, pas acceptable. Soyez pas surpris si le prof vous remet votre torchon, là, puis il dit, je peux pas accepter cela. Parce que le texte nous dit qu'on devrait faire ce qui est bien, bien travailler. Et Paul travaille, donne maintenant la raison pratique. La libéralité, ou selon le texte, travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est pourquoi on travaille. Quelle grâce. Au lieu d'être quelqu'un qui fait mal aux autres. Voyez le contraste ici. La nouvelle vie en Jésus-Christ. Travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quelle grâce. Parce que là, vous avez un reflet de Dieu qui est bon et qui pourvoit. Et Dieu vous dit, vous avez justement la possibilité d'être mes mains et de mes pieds et d'être quelqu'un qui distribue mes biens. Quelle grâce! Proverbe 11, 25 nous dit ceci, « L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Vous connaissez tous l'histoire de la pelle. Moi, j'ai une petite pelle et je mets dans la pelle de l'autre. Et Dieu, il a une plus grosse pelle et lui, il met dans ma pelle. Parce que ma pelle est toujours pleine pour que je puisse en donner aux autres. Proverbe 22, 9 dit ceci, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Et l'apôtre Paul va donner une exhortation tout à fait pratique aux anciens d'Éphèse, Actes chapitre 20. Il va dire ceci, « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, quelle grâce, hein, quelle grâce d'être un enfant de Dieu, d'avoir été métamorphosé. Au lieu d'être une chenille laide, nous sommes des papillons avec des nouvelles attitudes, des nouveaux goûts, et nous pouvons être de ceux que le Seigneur peut utiliser pour justement sa grâce. Et quelle bénédiction de porter la parole de vérité à un monde perdu. De raconter, de partager l'évangile de vérité. C'est extraordinaire. D'avoir la parole de Dieu sur nos lèvres et dans notre bouche. Être capable, par le Saint-Esprit, de donner ses paroles, les paroles de Dieu aux autres. Incroyable. Quelle grâce aussi d'être ceux que le Seigneur va utiliser, comme j'ai dit, pour faire du bien aux autres. Alors, l'apôtre Paul va continuer. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir d'autres aspects de cette nouvelle vie. Mais ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que nous puissions tous refléter ces grâces et que nous puissions être de ceux qui cherchent la face de Dieu. Dans la prière, et si ce soir vous avez des problématiques avec quelques aspects de ce texte, que le Seigneur vous donne aussi, oui, vous accorde justement sa grâce pour surmonter ses faiblesses et de remporter les victoires. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, ça nous fait du bien. Merci d'être le Dieu de toute grâce, un Dieu de vérité, un Dieu qui... Oui, quand il se met en colère, c'est une colère qui est justifiée parce que c'est contre le mal qui fait tant de ravages dans ta belle création. Et même nous voyons aussi le comble de cela à la croix où tu as frappé même ton propre fils dans ta colère à cause du péché. Seigneur, tu nous as transformés, tu nous as sauvés, tu nous as régénérés. Accorde-nous la grâce maintenant de marcher à ta suite, de nous dépouiller du vieil homme et de se revêtir de ces grâces qui te caractérisent et qui aussi a caractérisé le Seigneur Jésus-Christ. Que le monde puisse nous voir et voir que nous avons été avec Christ. Alors fortifie ton peuple. Donne-nous, Seigneur, de refléter ta bonté, ton amour, ta fidélité, afin que le monde puisse regarder nos vies et désirer posséder ce que nous possédons. C'est par nous, avec ta bénédiction, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonne fête.